Et le dernier père en question, enfin un des derniers, eh ben, c'est quelqu'un quand même qui est très connu, c'est Saint Grégoire le Grand. Alors petit A, Saint Grégoire le Grand, 540-604. Alors il est né dans une famille patricienne, comme les précédents, là, ceux de la semaine dernière, qui avait compté un empereur et deux papes, déjà, Félix III et Agapet Ier, ainsi que Boès, c'était un parent de Boès. Alors évidemment, vous pouvez vous douter qu'il avait reçu une excellente formation, et il avait accompli ce qu'on appelait le cursus honorum, hein, qui l'avait amené jusqu'à être préfet de la ville, hein, prefectus urbi. Et en 574, il se retire des affaires publiques, à 34 ans, déjà préfet de la ville. Donc, quand je dis Urbis, c'est Urbis, hein, évidemment. Donc, relativement jeune, pour vous dire qu'il devait être quand même de très très bonne famille, hein, parce que pour être préfet de la ville à 34 ans, même avant. Donc voilà, et il embrasse la vocation monastique, la vie monastique. Et en fait, il installe un monastère dans son palais familial du Celius. Vous voyez où est le Celius, hein?
En face du Palatin.
Oui. Vous savez, c'est en face du Palatin. Quand on a le Constantin, l'arc de Constantin dans le dos, on a le Palatin à droite et le Celius à gauche. Et devant, il y a la FAO, là. Puis les termes de truc là, de Caracalla, au bout. Et donc, le Celius, moi, c'est ma commune préférée. Je vous dis ça comme ça. Hein. Parce que d'abord, le Viminal, vous le cherchez, vous ne le trouvez pas. c'est entre Sainte-Marie-Majeure et puis, je ne sais plus très bien, bien Saint-Pierre-aux-Liens dans ces coins-là. Mais c'est vraiment... maintenant, c'est urbanisé, on ne voit plus trop bien. L'Esquilin, bon, d'accord. Il y a Sainte-Marie-Majeure qui est posée dessus comme une cerise sur le gâteau. Et puis, bon, évidemment... Il y a le forum, mais c'est un peu encombré. Le Capitole. Le Quirinal, c'est aussi assez encombré. Le Viminal, donc je vous dis, on ne le voit pas. Le Palatin, c'est pas mal, mais il y a beaucoup de ruines quand même. Hein. C'est quand même assez ruiné. Et puis, finalement, le Chélieu, c'est agréable parce que... On s'y promène, il y a de la verdure, tout n'est pas ruiné. Enfin, c'est plutôt... c'est pas mal. Moi, j'aime bien me promener dans le Celius. Enfin, bref, sur le Celius, il y avait donc le monastère, enfin, le palais familial de Saint Grégoire. Et c'est là qu'il installe un monastère. Et puis, comme il est vraiment conquis par la vie monastique, il va en installer 6 autres sur les terres familiales en province. À l'époque, on ne disait pas dans les territoires, hein. Disons province. Alors, dans son monastère, Saint-André, là où est actuellement l'église Saint-Grégoire le Grand, vous voyez, c'est pas idiot d'avoir mis l'église Saint-Grégoire le Grand sur le monastère où Saint-Grégoire le Grand a vécu. Alors, c'est une église, la façade est un peu. Elle est en face de l'espèce de truc de planétaire, là, du Palatin. Et juste en face, vous avez une église avec une façade une façade baroque. Et c'est là où sont les sœurs de Mère Teresa. Enfin, voilà. Et c'était le lieu, c'était le monastère que Saint Grégoire a fondé. Alors là, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se retire comme simple moine. Voilà. Il a transformé son palais en monastère et lui est. Un simple moine. Alors il se livre à une quiétude studieuse. Enfin voilà, en homme de l'Antiquité, il aimait quand même bien l'otium. Voilà, cette espèce de quiétude faite pour la contemplation. Donc la contemplation passe par les thunes. Mais il va être tiré de cette quiétude studieuse par le pape qui l'ordonne diacre et l'envoie comme apocrisiaire, donc comme nonce en quelque sorte, à Constantinople en 579. Et là, il sera donc, il représentera l'Église de Rome auprès de l'Église d'Orient. Il sera le conseiller du pape Pélage II et il va lui succéder à sa mort. Très souvent, vous savez, c'est l'archidiacre de Rome qui succède au pape. Et il lui succède alors qu'il avait secouru la population lors de l'épidémie de peste qui avait emporté justement Pélage II. Alors, si vous promenez enfin, dans un flot de touristes chinois ou japonais, et que vous surnagez un peu, vous arrivez aux chambres de Raphaël, là, dans le palais apostolique, et ben vous avez des fresques de Raphaël qui vous montrent des épisodes de la vie de Saint Grégoire, et en particulier celui-là, au moment où il va, comment dire, disons, se mettre au service de la population romaine. Et alors évidemment, le pauvre, il va devoir renoncer à sa vie contemplative, car son élection est confirmée tant par le peuple que par l'empereur. Alors il faut dire aussi qu'il ne jouira pas d'une très très bonne santé, parce qu'il avait un peu ruiné sa santé à cause de son ascèse dans son monastère. Et on a un écho de sa...
C'est ça l'erreur, tu ne
Voilà, c'est ça.
faut jamais ruiner sa santé à cause de choses comme ça. C'est trop bête.
Le docteur l'aurait encouragé à se ménager.
Ça fait deux erreurs. Une erreur plus une faute.
Et alors, on a un écho de sa tristesse d'être tiré de sa vie monastique dans un sermon qu'il a, dans une homélie sur le prophète Ézéchiel. Vous vous souvenez dans Ézéchiel qui parle d'être veilleur pour Israël, hein. Alors, je vous lis le sermon. Enfin, ce ne sont que des extraits, hein, parce que les sermons de l'Antiquité étaient longs. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. C'est le verset d'Ézéchiel. Il faut noter que le Seigneur désigne comme un guetteur celui qu'il envoie prêcher. Le guetteur se tient toujours sur la hauteur pour voir de loin tout ce qui va venir. Et tout homme qui reçoit le poste de guetteur doit se tenir sur la hauteur par sa vie, afin de pouvoir rendre service par sa vigilance. Combien il m'est cruel de dire ces paroles. Car en parlant, je me frappe moi-même. Je ne pratique pas la prédication comme je le devrais. Et lorsque cette prédication est suffisante, ma vie ne concorde pas avec mes paroles. Je ne nie pas ma culpabilité, je vois ma torpeur et ma négligence. Peut-être que de reconnaître ma faute m'obtiendra le pardon auprès du juge miséricordieux. Sans doute, quand j'étais au monastère, j'étais capable de retenir ma langue des paroles inutiles et de garder presque continuellement mon esprit attentif à la prière. Mais après avoir endossé le fardeau de la charge pastorale, mon esprit ne peut plus se recueillir assidûment parce qu'il est divisé par quantité de soucis. En effet, je suis obligé d'examiner les affaires tantôt des églises, tantôt des monastères, et souvent de juger la vie et les actes des personnes privées, tantôt de m'occuper longuement de certains problèmes civiques, tantôt de gémir devant l'assaut meurtrier des barbares. Alors, vous souvenez que aussi dans les chambres de Raphaël, il y a une représentation de Saint Grégoire qui arrête Attila, hein. Et de redouter les loups qui menacent le troupeau que Dieu m'a confié. Ça, c'est plutôt les hérétiques. Tantôt, je suis contraint de prendre des mesures pour que les secours ne manquent pas à ceux-là même qui sont tenus par la règle monastique. Tantôt, je dois supporter avec patience certains pillards et tantôt m'opposer à eux pour sauvegarder la charité. Lorsque l'esprit est amené à se disperser et à se déchirer par le souci d'affaires si nombreuses et si importantes, comment peut-il rentrer en lui-même afin de se recueillir entièrement pour la prédication et ne pas renoncer au ministère de la parole? Mais parce que les obligations de ma charge m'obligent souvent à rencontrer des hommes du monde, il m'arrive de relâcher la discipline de ma langue. Car si je maintiens constamment une sévérité rigoureuse, je sais que je mets en fuite les plus faibles, et je ne les attirerai jamais comme je le voudrais. C'est pourquoi il m'arrive souvent d'écouter leurs paroles inutiles. Mais parce que je suis faible, moi aussi, je me laisse quelque peu entraîner aux discours inutiles, et je me mets à parler volontiers sur des sujets que j'avais d'abord écoutés de mauvais gré. Et là où cela m'ennuyait de manquer au silence, je trouve plaisir à m'étendre. Quel guetteur suis-je donc, qui ne me tient pas posté sur la montagne de l'efficacité, mais plutôt gisant dans la vallée de la faiblesse? Mais le Créateur et Rédempteur du genre humain est assez puissant pour me donner, malgré mon indignité, et la noblesse de la vie et l'efficacité de la prédication, car c'est pour son amour que je me consacre totalement à sa parole. Voilà, donc un sermon de... Alors, pour tout vous dire, ce sont un peu des sermons convenus, hein, parce que vous avez lu déjà un de Saint-Augustin qui dit la même chose, en disant qu'il regrettait amèrement de ne plus être à ses chères études. Alors, c'est vrai aussi, sûrement, mais bon. Enfin, en tout cas, ça fait partie de la littérature de l'époque. Donc, fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Voilà. Alors, de sa vocation monastique, Saint Grégoire va garder le goût du service. Et c'est lui qui, le premier, se fera appeler Servus Servorum Dei, voilà. le serviteur des serviteurs de Dieu. Et en même temps, de son passé de haut fonctionnaire, l'efficacité de la gestion des personnes et des choses. Un peu comme Saint Ambroise, finalement, ou même Boès, ou des gens comme ça. Il fut un grand administrateur, aussi bien pour le temporel que pour le spirituel, autant pour Rome que pour l'Église, l'ensemble de l'Église d'Occident. Il fut un travailleur infatigable, sa correspondance compte 875 lettres, considérable. Ne négligeant pas pour autant sa charge spirituelle au service des Romains, notamment par la prédication, même si sa capacité de travail avait été diminuée par sa mauvaise santé. Alors il commença par ravitailler la ville qui avait été dévastée par les sièges, et pour ce faire, il a réorganisé l'administration des territoires du Saint-Siège qui étaient dispersés dans toute l'Italie, qui a eu des donations au cours du 4e, 5e, 6e siècle, mais tout était dispersé, mal administré, etc. Et lui va mettre en place une administration sérieuse, faire des échanges comme du remembrement presque, etc., de manière à pouvoir ravitailler la ville, qui est toujours aussi indigente. Avant, du temps de l'Empire, Elle se ravitaillait en Égypte. Donc il y avait la nonne qui avait sa flotte qui apportait les céréales d'Égypte ou d'Afrique du Nord ou de Sicile. Mais avec les règnes germaniques en Italie, d'ailleurs, dont Camille Pascal a parlé hier, finalement, l'Italie se retrouvait isolée. Et puis souvent en conflit, même lorsque les rois ostrogoths, cherchaient la paix, c'était les Byzantins qui essayaient de leur reprendre les territoires, donc il y avait toujours des conflits en Italie, et la ville était réduite à elle-même. Donc finalement, Grégoire comprend que s'il veut, si, parce qu'il garde de son passé de haut fonctionnaire le soin, le goût de servir enfin, la ville, en somme, hein, pas simplement les chrétiens. Donc il faut qu'il réorganise les biens du siège apostolique. Il doit faire face aussi à la menace lombarde qui succède aux Ostrogoths. Donc c'est un autre peuple germanique qui vient par le nord. Il doit négocier, solder des troupes, nommer les chefs, inspecter les remparts, fournir les arsenaux, etc. Donc vous voyez, une activité aussi de chef de guerre. Alors, ça n'empêche pas d'être en même temps un spirituel. Et ce fut un admirateur de saint Augustin. Donc on est quand même un siècle et demi après la mort de saint Augustin. Hein. À un préfet d'Afrique qui lui réclamait des conseils, il répondait « Étudiez les écrits du bienheureux Augustin, votre compatriote, et quand vous aurez goûté sa pure farine, vous ne réclamerez plus notre son. » Hein, c'est-à-dire l'idée que vraiment la théologie d'Augustin était bien plus raffinée que la sienne. Tous les grands principes augustiniens, et particulièrement ceux de la cité de Dieu, se retrouvent dans l'œuvre grégorienne, non seulement sur le plan spirituel, où l'on a pu dire qu'il avait été un reflet de son maître, mais sur le plan de l'action. Travailler pour la cité terrestre en vue de la cité divine, servir l'humanité en raison des promesses éternelles qu'elle porte en elle. Modeler l'histoire pour faire approcher l'heure du règne de Dieu. Tels furent les fondements d'une action qui, appliquée aux politiques et aux sociales et dans ces domaines si efficaces, ne fut jamais guidée que par le seul souci des intérêts spirituels. C'est Daniel Hobbes qui dit ça dans son volume consacré. Voilà. Comment ? Ah oui. Voilà. Et il dira, Grégoire, « Je me demande si en ce moment être pape, c'est être chef spirituel ou roi temporel. » Ah, c'est vraiment l'époque où il n'y a plus aucun pouvoir civil dans tout l'Occident. Et à chaque fois, comme le soulignait Camille Pascal hier, c'était en fait, finalement les vieilles familles aristocratiques, donc sénatoriales, qui assuraient, qui devenaient defensor civitatis, hein, qui est une fonction romaine, en devenant évêque, vous aviez la charge finalement de la cité, de la ville et d'un peuple. Donc voilà. Alors, il contrôle en effet tout dans Rome, le ravitaillement, l'administration, les défenses, les constructions, en particulier Sainte-Marie-Majeure. Et il va même vaincre la peste. Comment, docteur ? Eh bien, par des processions. Cette procession se réunissant à la basilique de Sainte-Marie-Majeure, donc, qui partait de 7 endroits différents. Donc des sept diaconies romaines.